internationale, je peux le dire. Ils sont très humbles et ils ont beaucoup appris par expérience. Mais ils sauront beaucoup mieux en parler que moi. Je vous propose, avant de les accueillir, avant d'accueillir Kurt sur scène, de prier pour cette soirée et sans plus attendre de continuer donc, et puis de recevoir ce que Dieu veut nous donner, nous communiquer au travers d'eux. Ça marche? Seigneur, je te remercie au nom de Jésus pour cette soirée, pour ce week-end qui commence et j'ai le privilège et l'honneur de prier ce soir pour que, Père, ton esprit soit au milieu de nous. Et je sais qu'il l'est, je sais qu'il est fidèle, je sais que ce soir tu vas nous communiquer, tu vas parler à nos cœurs. Je te demande d'ouvrir nos cœurs, enfin qu'on puisse avoir des cœurs disposés pour recevoir et que tu vas planter, tu vas mettre des choses sur nos cœurs ce soir. On va pas repartir sans rien parce que tu es généreux et je crois que ta parole va être annoncée encore avec fermeté, avec autorité. Et je crois que ce soir ça va être bon pour nos vies. Alors viens Seigneur, sois à l'honneur ce soir, toute la gloire est pour toi. Et je sais que de grandes choses nous attendent Seigneur. Tu as des plans merveilleux pour la vie de chacun d'entre nous et continue encore de fonder ce soir. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Kurt, à toi l'honneur. On peut l'applaudir encore. Merci beaucoup.
Voilà, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir d'être en Alsace. Je me réjouis pour demain le repas du soir et puis dimanche. Le thème choisi par l'Église, il y avait du choix. Et je crois que c'est un bon choix, les secrets de l'économie du royaume de Dieu. Parce qu'il y a une économie du monde, mais il y a aussi une économie du royaume de Dieu. Et cette économie-là, elle est méconnue. Et pourtant, elle est très, très importante. Je parlerai demain un peu en détail des apparitions de Jésus et vous verrez que le 90% de ces apparitions se sont faites dans le monde des affaires. Et aussi les paraboles, toutes les interventions tournées régulièrement autour des finances et de l'économie, les miracles aussi. Voyez que on a ici une clé. Donc cette clé est là pour ouvrir ce trésor et pour connaître les secrets de l'économie du royaume de Dieu. Nous allons entrer là-dedans pour démasquer aussi les mensonges du monde parce que souvent, je dis, vous avez ici, vous avez le système du monde et vous avez le royaume de Dieu. Et vous voyez, les deux sont diamétralement opposés l'un de l'autre. Ici, l'économie fonctionne avec vendre et acheter. Et là, avec donner et recevoir. Ça ne veut pas dire que vous donnez tout. Vous devez tout donner gratuitement, mais c'est là, le principe spirituel est basé là-dessus. Demain, on en parlera plus en détail. Ce soir, c'est un peu une mise en bouche. Et demain, ceux qui se sont inscrits ne regretteront pas. On aura toute une journée et après avec une formation en profondeur. Parce que n'oublions pas ce que je peux apporter ici entre aujourd'hui, demain, puis dimanche lors de la prédication. C'est beaucoup d'informations. Mais si les informations ne sont pas suivies par la formation, vous n'arriverez pas à la transformation. Dans les églises, on a le grand problème, c'est que on aime bien les informations. Et encore des informations, et encore des informations. mais nous devrions travailler en profondeur. Et surtout un sujet comme l'économie, qui est étroitement liée avec les finances, nécessite d'en parler et de connaître. Parce que n'oubliez pas, dans la Bible, il y a environ 200 versets en relation avec la foi. Et la foi, c'est quand même un sujet très important. Environ 220 versets en relation avec le salut, donc le salut de l'âme. Mais il y a 2350 versets en relation avec l'argent, richesse, pauvreté, donc économie. Donc, pas seulement 10 fois, 12 fois de plus. Et pourtant, on ne connaît pas, ou très peu. Et c'est dans le monde entier. Nous avons ces dernières années fait deux fois le tour du monde en avion. Et depuis l'année passée, on a vraiment senti que le Seigneur nous voulait garder un peu en Europe. Et on a commencé, bon, en France, on était déjà avant, on a commencé à labourer la terre très dure en Allemagne, où il y a aussi un esprit de pauvreté. Ce n'est pas une critique, c'est une simple constatation. Cet esprit existe aussi en France. Et on a vu que ces gens ont besoin d'être libérés. On est libéré quand on connaît la vérité, parce que la Bible dit, c'est la vérité qui te rend libre. On parlera demain encore de l'esprit de pauvreté, puis peut-être aussi dimanche, lors de la prédication, parce que c'est un esprit qui est très puissant, et je le déteste alors totalement, parce que c'est un mensonge qui est l'arme la plus redoutable de Monsieur le Diable, et puis il a toujours les mêmes combines qui fonctionnent depuis 6 000 ans. Alors on commence avec les secrets de l'économie du royaume de Dieu. Nous devons déjà savoir dans quel temps vivons-nous et quelle est notre stratégie, notre vision. Alors, la première question, dans quel temps vivons-nous? Vous voyez tous que le monde n'est plus ce qu'il était hier. Et le monde ne sera plus demain ce qu'il est aujourd'hui. Et puis c'est de pire en pire. Vous voyez des gens qui n'ont plus de travail. On va être gentiment, mais sûrement, être remplacés par des ordinateurs, des robots que l'homme a inventés en pensant qu'il pouvait se mettre dans un hamac ou au bord de la mer. Et puis il a essayé de travailler les machines. Et ça, c'est une illusion. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'avec ces machines, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les prix ont baissé dans beaucoup de domaines. Regardez les télévisions, les ordinateurs, nos téléphones portables, les voitures. Regardez les voitures aujourd'hui. C'est beaucoup moins cher par rapport aux revenus que ce qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière. Et vous avez tout dedans. Alors ça veut dire qu'on a aujourd'hui des prix qui ont baissé et puis les gens ont moins de travail et puis n'auront plus l'argent nécessaire pour acheter ces trucs qui sont devenus bon marché. C'est ça. Mais vous savez, notre Dieu a du travail pour tout le monde, en tout cas pour ses enfants, prioritairement. Mais vous devez connaître les plans de Dieu. Vous devez le connaître parce qu'autrement, vous vivez dans l'ignorance et puis l'ignorance est spirituellement parlant mortelle. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance. D'ailleurs, la pauvreté, juste pour vous dire, je dirai certainement encore demain, la pauvreté n'est pas prévue par Dieu. Si quelqu'un dit, on m'a déjà dit, je dis, mais tu t'appuies où dans la Bible? Il faut me montrer, d'ailleurs, tout ce que je dis basé sur la Bible. Et puis, si quelqu'un trouve que ce n'est pas le cas, il peut me poser la question et puis je lui dirai où on le trouve. Mais quand quelqu'un vient avec une argumentation, je dis aussi, tu le prends où? Et quand il dit, oui, mais je dis non, Lévi ne m'intéresse plus depuis longtemps, où dans la Bible, où? Et donc la pauvreté dans la Bible, ce n'est pas voulu par Dieu, c'est une malédiction. Elle est issue de, on peut dire, de quatre, on peut citer quatre points, c'est le péché. Là, on peut, et puis la désobéissance. La désobéissance, c'est Deutéronome 28, du verset 15 à 68. Si tu n'obéis pas, voilà les malheurs qui viendront sur toi. Ensuite, sur une malédiction générationnelle qui est souvent sous-estimée, que pourtant la Bible en parle, qu'elle peut aller sur combien de générations? 3 à 4, dit la Bible. Et puis un quatrième point qui est très important, chers amis, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Quand vous ignorez la vérité, vous ne la connaissez pas, et si vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas être libéré. Donc nous avons du travail à faire. Alors ça veut dire le temps maintenant dans lequel nous vivons sont tout sauf très réjouissants. Mais pour les chrétiens, oui, c'est une opportunité unique. C'est nous qui devons être prospères et avoir du succès quand le monde ne va plus. C'est ce que Dieu a toujours voulu. Et puis vous pouvez le suivre dans la Bible. Pourquoi? Pour que nous allons bien, puis les autres moins bien? Non. C'est pour devenir un instrument de bénédiction pour beaucoup de gens qui sont dans la pauvreté et dans la détresse. Parce que la pauvreté, on est appelé à aider. Et comment on aide un pauvre? Non pas en lui donnant tout le jour un poisson à manger, mais en l'apprenant à pêcher. C'est ce que nous faisons. Nous avons déjà libéré des pauvres aussi en Afrique. Quand on m'a dit au Burkina Faso, on est un pays pauvre, j'ai dit. Répétez, on est un pays pauvre. J'ai dit, écoutez les amis, je vous cite le pays le plus pauvre que je connais est la Suisse. Tout le monde a rigolé. J'ai dit, nous n'avons même pas de charbon, nous n'avons pas de. Nous n'avons pas de fer, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas de diamants, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons rien. Nous avons que des cailloux et on a tellement de cailloux qu'on les a entassés et puis on a maintenant le Mont Cervin et puis tout le reste. Mais si la Suisse est devenue riche, c'est parce qu'elle était nos ancêtres, ils vivaient dans la crainte de l'Éternel. Et quand vous êtes avec l'Éternel, vous êtes condamné au succès. Ça, c'est la plus belle condamnation. Oui? Ça ne veut pas dire que Dieu fait de chacun un millionnaire. Non. Mais Dieu fait de chacun et pour chacun qu'il ait toujours assez pour tous ses besoins et même au-delà afin de pouvoir encore investir dans de bonnes œuvres. Donc, même un surplus. 2 Corinthiens 9, verset 7 à 8. Alors voilà. Ensuite, quelle est notre stratégie? Quelle est notre vision? La stratégie, pour moi, c'est clair. Nous enseignons le plus possible des gens pour devenir libres et puis pour faire des chrétiens des gens qui ont du succès. L'autre jour, on était en Israël avec une société dans le domaine de IT, où je suis entré dans le conseil d'administration 2010. Ils étaient 20, aujourd'hui on est 120. Et les trois propriétaires qui étaient avec, qui sont des amis avec leurs femmes, des fois c'est presque un peu gênant parce qu'ils disent, Kurt, Lise, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Mais c'est inouï. J'ai dit, mais oui. J'ai dit, c'est ça les plans de Dieu. Parce que vous êtes honnête et vous investissez plus loin. Avec cette société, on investit des centaines de milliers de francs par an dans l'homme, dans le faible, enfant, etc. Alors nous devons avoir une stratégie, une vision. Ce temps est propice pour nous. Quand le monde se casse la figure, c'est là que Dieu joue un rôle magnifique. C'est là que Dieu veut montrer qu'il est aux commandes et puis qu'il est un Dieu qui a de bons plans. Apocalypse 7, versets 1 à 3, parle de ce temps dans lequel nous vivons avec ces quatre vents qui soufflent. C'est donc le passage où il y a les quatre anges qui retiennent les quatre vents et puis qui vont mettre le sceau du Dieu vivant sur, non pas le sceau, le sigle. Il est dit ici, oui, il tenait le sceau du Dieu vivant, c'est marqué le sigle. Donc, et je vis des anges qui montaient puis qui retenaient les vents aux quatre, donc les quatre vents de chaque angle. Et à ces anges étaient donnés de mettre le sceau du Dieu vivant sur le front. Ça, c'est le chapitre 7 d'ailleurs. Le diable, il a six chapitres de retard quand il vient avec son tampon, le 666. C'est dans Apocalypse 13. Alors ça veut dire quand quelqu'un a peur de ce 666, parce qu'il est écrit, si tu ne l'as pas sur la main ou sur le front, tu ne pourras plus acheter ni vendre. Si tu es un enfant de Dieu, tu peux dire, pas besoin, merci, je suis déjà servi six chapitres avant par le Dieu vivant avec le sceau sur mon front. Donc, pas besoin. C'est aussi simple que ça. Dieu a toujours quelques longueurs d'avance sur Monsieur le Diable. Mais ces quatre vents veulent aussi dire quelque chose. C'est Rick Joyner qui a eu cette vision que le premier vent était la puissance militaire sur la terre, qui a duré très longtemps, du temps des pharaons, ensuite Nebuchadnezzar, et puis tous les grands conquéreurs, Alexandre le Grand, etc., l'Empire ottoman, et jusque avec ou à la chute de l'Empire romain. Donc c'est une longue période sur pratiquement 3000 ans. Et jusqu'à la chute de l'Empire romain, environ à l'an 300 après Jésus-Christ. Ça, c'était le vent, la puissance militaire qui a régné sur la terre. Ensuite est venu le deuxième vent qui était la puissance religieuse parce que les papes sont devenus des guerriers. Ils se sont mis au-dessus. Et le troisième vent, bon, ça a duré avec les papes depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à tard dans le XVIIe siècle. Et ensuite, le troisième vent, c'est le vent de la puissance politique avec les révolutions françaises, américaines, russes et compagnie, encore plus court. Le premier, 3000 ans, le deuxième, environ 1300 ans, et maintenant, on a nettement plus court, 200 ans. Et puis aujourd'hui, le quatrième vent, qui est au-dessus des trois autres, donc on a militaire, religion, politique, c'est le vent de l'économie. Aujourd'hui, c'est l'économie qui règne. Vous voyez ça avec les géants, qui deviennent toujours plus grands, qui fusionnent, qui nous contrôlent, qui contrôlent chaque mouvement de nous, Google et puis Facebook et puis tous ces géants, et puis on n'y échappera pas. D'ailleurs, ça ne me fait pas trop de soucis. Moi, j'ai mon grand Dieu avec moi, Google ne m'inquiète pas, personnellement. Même que ça devient puissant, très néfaste aussi. Alors voilà, ça veut dire, si aujourd'hui souffle ce vent-là, c'est donc que nous devons avoir une stratégie de tête et puis être actifs dans ce vent, et non pas une stratégie de queue. Dieu nous appelle à avoir une stratégie de tête. Deutéronome 28, versets 1 à 14, où il nous fait des promesses que si nous obéissons, quatre fois il appelle à l'obéissance, et ces quatre appels à l'obéissance sont suivis de 25 promesses de bénédiction. 25. Si tu obéis, tu seras béni dans ta famille, dans tes entrailles, dans tes affaires, dans tes finances, etc. Au départ, à l'arrivée, tu seras toujours la tête et pas la queue. Tu n'emprunteras pas d'argent, mais tu prêteras, etc., etc. Et c'est ça qui sont les plans de Dieu. Donc ici, j'ai parlé de ces quatre vents. On a ici, comme je dis, la puissance militaire suivie de la puissance religieuse, la puissance politique et la puissance économique. Donc, et nous sommes là-dedans. Maintenant, ce qui est intéressant quand on parle de ces quatre puissances, il y a un lien avec l'œuvre de Jésus accomplie sur la croix. Vous savez, c'est impressionnant jusqu'où va cette victoire que Jésus a obtenue sur la croix. Parce que si vous regardez, la puissance militaire, la première puissance, le premier vent, il a gagné, il a vaincu les Romains. La deuxième puissance religieuse, les pharisiens, il l'a vaincu sur la croix. La troisième, c'était la puissance politique, Pilate, il a vaincu. Et la troisième était la puissance économique, en la personne de Judas. Il a aussi vaincu. Alors, tout ça a déjà existé et on peut voir dans la Bible des parallèles qui sont extrêmement intéressantes. Je viens maintenant, quand on parle d'économie, il faut savoir qu'est-ce que c'est une économie. Une économie, c'est très simple. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui expliquent ce que c'est le communisme, le socialisme, le capitalisme, l'économie verte et compagnie, puis vous comprenez rien. Moi, je suis un homme très simple. J'arrive toujours à l'expliquer d'une façon très simple, ce que beaucoup de gens font d'une façon compliquée. D'ailleurs, des fois, je dérange un peu parce que quand quelqu'un est trop compliqué, je fais une synthèse. Je dis, mais écoutez, c'est que ça, donc c'est pas compliqué, non? Faire compliqué, c'est aussi pour se faire important. Mais moi, je ne veux pas être important. Celui qui est important est Dieu. Et c'est lui qui m'inspire des choses comme ça, et puis je lui rends toute la gloire. Alors, pour une économie, il y a toujours trois composantes. Il faut l'homme qui travaille. Vous savez, juste pour vous dire, l'homme doit travailler, mais pas n'importe comment. On arrivera encore à ça. Mais l'homme travaille. La terre, elle fournit les matières premières. Et l'argent sert à mettre le tout en marche. Alors ça veut dire qu'il faut les trois. Maintenant, vous regardez, il y a quatre, on peut parler de quatre systèmes économiques, socialistes, capitalistes, écologiques, et puis l'économie du royaume de Dieu. Le dernier est méconnu. Parce que le socialisme, c'est quoi? Le socialisme, il met l'homme en avant au détriment des deux autres. Ça veut dire on donne à l'homme une telle importance, elle n'est pas équilibrée. Vous voyez ça maintenant en France, il y a une société là qui n'a manifestement, elle a plus de travail. Monsieur Macron d'ailleurs l'a visité, je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Ils font. Voilà. Et puis on revendique, on dit l'État doit permettre, doit payer, mais des fois il y a tout simplement il y a un créneau qui marche plus, il s'est terminé. Et puis ça, beaucoup de créneaux vont être touchés, chers amis. Donc nous devons nous préparer et nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Dieu aura un travail pour chacun qui connaît Dieu et puis qui s'appuie sur lui et qui connaît la vérité. C'est une promesse. Et cette promesse est dans Psaume 37, versets 24 à 26. Vous savez, quand quelqu'un dit Dieu m'a laissé tomber, je dis lis le verset, les trois versets dans Psaume 37, versets 24 à 26, où le vieux David témoigne que jamais il a vu le juste abandonné par Dieu, jamais il a dû mendier, ni ses enfants, toujours avait-il assez à manger. C'est toujours le même Dieu aujourd'hui. C'était le vieux David qui a témoigné. Donc Dieu n'a jamais laissé tomber un être humain, mais les gens se laissent tomber eux-mêmes. Alors voilà, nous avons donc ici que l'homme est mis tout en haut, il revendique, il va dans la rue. Vous savez, moi j'ai de la peine quand je vois que même des chrétiens vont dans la rue pour manifester, moi j'ai de la peine avec ça. Franchement, j'ai de la peine. Nous ne sommes pas appelés à manifester dans les rues, nous sommes appelés à mener un combat spirituel dans la prière contre le monde des ténèbres. Mais de hurler avec les autres, moi je peux tout de suite vous dire, alors vous ne serez jamais bénis par Dieu. Alors ça, c'est clair et net. J'en connais, hein, et ils sont toujours dans la même sauce. Ah oui, et ça n'a pas changé. Puis des fois, ils viennent chez nous et je dis, non, écoutez, je n'ai pas du temps à perdre. Moi, je ne fais pas de la relation d'aide sans fin. Nous, la relation d'aide, c'est vous voulez être libéré? Oui. Je dis, OK, on va cheminer, on va le faire, il n'y a aucun problème. Et je peux le dire. Raconterai ça demain. Je suis devenu très riche et puis je me suis finalement, avec un changement de loi en Suisse complètement idiot, qui m'a permis de trouver la foi, j'ai perdu non seulement mes dizaines de millions de fortune que j'avais amassées en 15 ans, mais en plus, tout d'un coup, les banques m'ont réclamé 140 millions suisses, donc ça fait 130 millions d'euros. Et puis je peux vous dire, il faut un grand Dieu pour vous sortir de là. Donc, je connais mon Dieu. Ensuite, vous avez le système capitaliste. Vous voyez que ce n'est pas la bonne formule non plus parce qu'on met le pognon en avant au détriment de l'homme et puis des matières premières, donc de la terre. Après, vous avez le système vert. C'est là que c'est la terre. Le réchauffement climatique, là, maintenant. Le réchauffement, c'est une nouvelle religion. Et c'est avec nos voitures. Nos voitures. En Suisse, on a des lois aussi complètement idiotes, mais la Suisse, elle participe pour 0,001%. Donc c'est complètement stupide. Mais maintenant, on veut nous faire rouler avec des voitures électriques, on veut arrêter les centres nucléaires, et puis en France, c'est encore pire. C'est une nouvelle religion. Bien sûr, il faut protéger, il faut faire attention, je suis d'accord. Il faut limiter les dépenses dans la consommation d'eau et électricité, tout ça, je suis d'accord, mais il ne faut pas tomber dans des extrêmes. On va connaître en Suisse, en tout cas, et puis je pense en France avec M. Hulot aussi, je peux m'imaginer qu'on va connaître des moments pénibles avec un manque de courant électrique. C'est tout à fait possible. Alors voilà, on tombe dans des extrêmes. Mais voyez, le royaume de Dieu, il englobe les trois. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il dit, protège la terre, n'exploite pas l'homme. Tu as besoin de capital, mais ne fais pas un dieu avec ça, ni une condition sine qua non. Mais mets les trois ensemble dans un bon mélange. C'est pas compliqué. Après, nous avons une comparaison des systèmes économiques. On peut parler ici, vous voyez, de quatre phases. Il y avait l'économie du jardin d'Éden, où Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. C'était l'économie du jardin d'Éden qui a fini en catastrophe. Parce qu'ils étaient expulsés. Ils ont dû quitter. Et puis le Seigneur a maudit le sol. Et depuis ce moment, l'homme déchu pioche à la sueur du front le sol qui a été maudit par Dieu. Il était gentil, il n'a pas maudit l'homme, mais il a maudit le sol. Ensuite, on a l'économie des patriarches. Elle a fini en captivité en Égypte pendant presque 400 ans. Après, une économie des rois d'Israël, elle a fini en captivité à Babylone. Catastrophe aussi. Et nous avons, chers amis, nous avons ce privilège maintenant d'entrer dans l'économie du royaume de Dieu et de faire mieux. Et faire mieux, c'est de connaître comment cela fonctionne. Et c'est ce soir, le but de cette conférence est de vous montrer un peu le côté spirituel des secrets de l'économie du royaume de Dieu. Et puis pour vous montrer ici, j'ai déjà donner un exemple avec acheter, vendre et puis donner, recevoir, vous avez toujours le système du monde qui est diamétralement opposé au royaume de Dieu. Dans le monde, on veut faire l'homme dépendant de l'État. Ça, c'est par exemple le socialisme, le communisme. Ça veut dire l'État providentiel qui s'occupe de tout, qui fait des promesses qu'il ne pourra pas tenir. L'État ne pourra pas tenir les promesses qu'il a faites. Je peux déjà vous dire, alors préparons-nous. Avec comme conséquence que l'homme devient déresponsabilisé. Parce que vous avez la situation, celui qui fume comme une locomotive, qui boit comme un chameau, et qui a toutes sortes d'aventures sexuelles, et qui va finir comme alcoolique atteint par un cancer du poumon à cause de la fumée, et puis peut-être encore hein, du foie. Il ne devra pas moissonner ce qu'il a semé. Et pourtant, attention, la Bible, elle est claire, les amis. Elle dit, vous pouvez lire à droite, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire, nous avons, Dieu veut nous responsabiliser, veut faire de nous des êtres responsables et non pas des êtres qui sont déresponsabilisés. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser mourir celui qui a atteint le cancer ou du sida et compagnie, mais ça veut dire qu'on doit faire attention jusqu'où on va. Vous savez, ça sonne un peu dur, mais c'est la parole. C'est exactement. Vous savez, en France, l'autre jour, on était au sud, à Antibes. Et puis là, j'ai fait une présentation. Et puis, j'ai dit, la parole dit que l'homme, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mangera pas. C'est la parole qui le dit. Pas celui qui peut pas travailler, celui qui ne veut pas. Il y a un qui s'est levé, où il n'était pas du tout d'accord avec moi. Mais je dis, je suis navré, cher frère, mais ça, c'est la Bible qui le dit. Si celui qui ne veut pas, parce que est-ce que vous ne voulez pas? Il ne m'a pas répondu, mais après, un des anciens m'a dit, mais celui-là, il est depuis 5 ans, il a tiré sur toutes les ficelles. Et puis, il ne cherche même pas du boulot, il est toujours à charge du contribuable. Il ne veut pas travailler, donc il se sentait visé. Mais après, il est venu vers moi et ça l'a quand même fait un peu réfléchir. Parce que j'ai dit, mais c'est la parole qui le dit. Elle est gentille, la parole. Elle dit, si tu peux pas travailler, dans ce cas, tu as besoin d'aide. Mais si tu ne veux pas, mais dans ce cas, que tu n'aies pas à manger non plus. Donc elle est, moi je dis gentille, mais elle est aussi très claire. Et là, on voit aussi que l'homme doit être un gérant responsable et non pas un être déresponsabilisé qui pense qu'il ne doit pas moissonner ce qu'il a semé. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème, mais c'est la Bible qui le dit. Ensuite, j'aime bien ce passage dans 3 Jean 1, 2, où l'apôtre Paul dit, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Là, ceux qui sont contre la prospérité financière, attention, il y a de nouveau la théologie de la pauvreté que je déteste, et puis il y a la théologie de la prospérité que j'aime pas non plus, mais je la déteste moins que l'autre. Mais elle n'est pas juste non plus. Mais il y a celle du milieu qui est que Dieu souhaite faire de nous des gérants fidèles, compétents et prospères. Et c'est pour ça que j'aime cette phrase. Pourquoi il souhaite que nous soyons prospères? Mais pour glorifier son nom. Et puis pour pouvoir devenir un instrument de bénédiction pour d'autres, pour des plus faibles. Alors, si tu es complètement fauché, puis tu sors de l'église, et puis il y a un vagabond qui est dehors, qui disent que tu as quelque chose, tu ben, moi non plus, je suis complètement fauché. Ce n'est pas vraiment le témoignage. Mais si tu peux lui dire, écoute, je t'invite à un repas, viens. Et tu peux en même temps lui présenter Dieu. C'est ça qu'il faudrait avoir un peu le dimanche, des gens un peu bizarres qui attendent dehors, puis qu'on pourrait s'occuper. En tout cas, moi, j'aimerais bien prédire, mais on va manger ensemble. On va boire un coup. Alors voilà. Il faut connaître aussi le plan de Dieu. Il faut connaître d'où nous venons et où nous allons. Tout le monde sait que le Dieu a mis Adam et Ève sur la terre. On peut lire ça dans Genèse. Il les a mis comme gérants. Donc, ils avaient le rôle de gérant, de directeur pour gérer la terre et puis pour continuer l'œuvre. Dieu n'a jamais complètement terminé l'œuvre, encore aujourd'hui. Il y a toujours des améliorations parce qu'il voulait continuer le travail, ou je dirais la création de la terre avec ses enfants. C'est pour ça qu'il y a encore aujourd'hui de très très bonnes choses qui se passent. De moins bonnes aussi, mais Dieu a souhaité associer ses enfants pour parfaire l'œuvre. Et donc, Adam et Ève avaient le rôle de pouvoir donner des noms aux animaux. Quand vous voyez combien de millions d'animaux existent, c'était déjà un travail assez considérable. Ils avaient vraiment une vie facile. C'est la vie qui nous attend si nous arrivons en haut. Donc, ils avaient la promesse de la vie éternelle sans maladie, sans manquement, sans mort. Ils pouvaient manger de l'arbre de la vie éternelle. Mais Dieu devait mettre un arbre duquel ils ne pouvaient pas manger parce que c'est un Dieu qui nous donne la liberté. Et si il n'aurait pas donné la liberté de manger de cet arbre, non, on n'aura pas de liberté. Mais Dieu donne la liberté. Le diable ne donne pas de liberté. Mais Dieu devait donner la liberté en mettant un arbre et en disant, tu ne mangeras pas de cet arbre parce que tu mourras. Donc la vie éternelle sera terminée. Et c'était nécessaire. Ça, on peut expliquer ça aux gens qui sont dans la foi, qui ne comprennent pas pourquoi Dieu a mis cet arbre. J'ai dit parce qu'il n'a pas créé des marionnettes. Il nous a donné la liberté, le plus grand cadeau. Et ceux qui ne sont pas dans la foi disent, mais je ne comprends pas comment pouvait Dieu faire ceci. Puis là, on peut expliquer qu'il devait donner la liberté, plus grand cadeau, de pouvoir choisir. Et il devait aussi donner laisser l'accès au diable pour les tenter, comme aujourd'hui. Dieu, il n'interdit pas au diable de venir, mais il nous donne les armes pour nous défendre. Mais le diable peut se promener. Le diable pouvait venir vers Dieu dans l'histoire de Job et dit, salut, comment tu vas? Puis Dieu a dit, t'as vu mon serviteur? C'est quand même un peu fort, non? Et il est nommé là, il est nommé fils de Dieu, le diable, dans le livre de Job. Ailleurs, il est nommé le gérant de la terre, le prince de ce monde, de Dieu de ce monde, Dieu de ce monde, 2 Corinthiens 4, 4. Alors, nous avons les deux dans le jardin d'Éden et puis ils ont vraiment tout pour avoir une vie magnifique pour toute éternité et ils se sont laissés avoir par le diable. Ça, c'était la promesse d'avoir directement la vie éternelle au paradis. Maintenant, avec la chute, puisqu'ils ont mangé de cette pomme, ils ont donc commis un péché, ils n'ont pas obéi à Dieu. Et Dieu ne pouvait pas les garder au paradis. Pourquoi? Parce qu'au paradis, il n'y a pas de péché, comme il n'y a pas de maladie. Donc si quelqu'un me dit, Dieu m'a envoyé une maladie. J'ai dit non, il aurait dû la voler parce qu'il n'en a pas dans son répertoire. Et puis comme la parole dit que Dieu n'est pas un voleur, donc tu oublies. Vous savez, c'est pas compliqué. La Bible, vous pouvez expliquer. Il faut juste un peu une logique. Puis ils disent, mais ça vient d'où? J'ai dit, c'est le diable. C'est Monsieur le diable qui distribue des maladies, le cancer et tous ces trucs-là. C'est lui. Dieu n'en a pas dans sa réserve. Et nous devons le connaître que Dieu n'est pas celui qui distribue le mal, mais il y a le diable qui a la liberté de nous tenter. Pourquoi? Parce que c'était une fois un ange hautement placé, et maintenant il a piqué la place de gérant à Adam. Dieu est un Dieu qui respecte, vu que Adam lui a servi sur un plat, ensemble avec Ève, cette fonction. Dieu n'a pas dit, hop, stop, on arrête le film, c'est pas ce qui était prévu. Non, il a dit. Il a dû dire à Jésus et au Saint-Esprit, c'est dommage. C'est dommage. Mais il respecte que l'homme a donné au diable la gérance de la terre. D'ailleurs, c'est très intéressant à ce sujet quand le diable tente Jésus après 40 jours de jeûne et il veut lui donner, lui remettre la gérance. Il dit, elle était donnée à moi, c'est vrai, mais il dit qu'elle était le propriétaire. Puis c'est un mensonge, il n'est pas le propriétaire, il n'est que le gérant. Il est le gérant instauré par Adam et Ève. Alors maintenant, la chute de l'homme, c'est que l'homme doit sortir, que Dieu maudit la terre. Il dit, homme déchu, tu travailleras dorénavant à la sueur de ton front. Qui ici, quand il pense à lundi de retourner au travail, ne se réjouit pas vraiment. Lève la main. Voilà. Donc vous avez juste, c'est pas grave, mais vous avez juste un problème. C'est que vous n'êtes pas dans votre appel. Et c'est pas compliqué, chers amis. C'est pas compliqué. Il faut ensuite juste prier et demander à Dieu où est mon appel. Je ne fais pas partie de ceux qui sont. Pourquoi est-ce que vous vous considérez comme étant un homme déchu? Ben oui, puisque c'est ici écrit que Dieu a maudit la terre et puis il a dit homme déchu, tu travailles à la sueur du front. Oui et non. Non pour ceux qui ont accepté Jésus, parce que, vous voyez ici encore l'image. On voit ici que maintenant, avec la chute de l'homme, on a un petit détour. Hein? Et ce détour, il est sur la terre et il a une fin, avec la mort physique. Mais la bonne nouvelle, chers amis, c'est que Jésus est venu dans ce monde pour libérer les captifs et détruire les œuvres de l'ennemi, du diable. Et nous réinstaurer comme gérant de la terre. Donc pour moi, et puis pour Lise, et puis encore pour certains d'autres ici, le diable n'est pas notre prince de ce monde. Il n'est pas le gérant de la terre pour nous, c'est nous qui sommes les co-gérants avec Dieu. Et toi aussi. Mais quand tu entre dans cette dimension, voyez, et puis on voit ici quand tu acceptes Jésus, tu montes, tu peux, hop, là fait plus chaud là. Mais quand tu acceptes Jésus, tu es un gérant réinstauré, comme il est décrit dans Luc 4, tu es appelé à entrer dans l'appel de Dieu. Te dire, Père, je ne suis pas. Tu peux dire, Père, ce soir, j'ai entendu Kurt Pullman dire que je ne suis pas un homme déchu. Je le croyais jusqu'à présent et je piochais à la sueur du front pour gagner de l'argent. Et semble-t-il, c'est un mensonge. Et je te dis, oui, c'est un mensonge. Parce que toi, tu es appelé à ne pas travailler à la sueur du front pour gagner de quoi vivre. Mais tu es appelé à répondre à l'appel que Dieu a pour toi, puis tu peux lui demander, il n'est pas plus loin qu'un appel. Et ensuite, l'argent n'est plus un but en soi, mais l'argent devient le fruit de ton activité qui correspond à ton appel. Si tu as l'appel d'être missionnaire, Dieu te financera. J'ai un pasteur qui m'a écrit de l'Allemagne de l'Est. Il m'a dit, il écrit, c'est un jeune pasteur. Je vous ai vu au Gospel Forum à Stuttgart. Là, on a prêché devant. Donc, il y avait 6 500 personnes au culte, en 3 cultes, au mois de mars. Puis, dans les 3 cultes, j'ai prêché avec Lise, et puis chaque fois un message différent. Et il a dit, j'ai vu, et puis, moi, j'aimerais vous connaître, et puis. J'aimerais vous demander, je suis en Allemagne de l'Est et puis c'est financièrement difficile. Est-ce que vous seriez d'accord de me soutenir? Il y a même le compte, numéro de son compte bancaire. Et je lui ai répondu, j'ai dit, cher ami et pasteur, cela nécessite un enseignement que je peux vous donner et je vous invite à notre prochain séminaire qui aura lieu à, pas loin d'ici, près de Lörrach, en Allemagne, sur 3 ou 4 jours. Et puis il m'a répondu, ah oui, alors ça c'est bien, il a répondu, je viens volontiers, je peux prendre ma femme avec. J'ai dit, bien sûr, ça c'est toujours bien. Ce monsieur doit apprendre ça, que Dieu paye ce qu'il a commandé. C'est aussi simple que ça. Mais souvent, Dieu ne paye pas parce qu'il ne l'a pas commandé. Souvent, les gens commandent et ça ne correspond totalement pas du tout à ce que Dieu souhaite et ils l'ont fait eux-mêmes. Et après, ils essayent encore de mettre un peu Dieu dans l'affaire comme on met de la mayonnaise. Et ça ne fonctionne pas comme ça, Dieu. Et souvent, on peut pas faire n'importe quoi avec Dieu. Donc, il ne paye pas ce qu'il n'a pas commandé. Il peut ensuite bénir quand même, aider nous pour ne pas laisser tomber, mais en tout cas, on risque de passer par une phase un peu difficile. Un peu difficile parce que Dieu veut quand même nous faire apprendre quelque chose quand nous faisons une bêtise. Alors ça veut dire, tu ne dois plus travailler à la. Donc déjà, tu ne dois plus te considérer comme étant un homme déchu, mais comme un homme, donc femme et homme, réinstauré comme gérant de la terre. Ensuite, tu dois poser la question à Dieu, quel est mon appel? Et en principe, tu connais ton appel, c'est parce que tu aimes. Moi, après ma chute, je suis revenu dans l'immobilier, j'ai tout perdu, ma fortune, mes sociétés, ma réputation, ma première femme. Et puis j'ai fait connaissance de Lise dans notre église, un groupe de prière. Et puis on s'est mariés. Et puis, et là, je sortais des problèmes avec les banques. Et puis, elle avait un salon de coiffure. J'ai dit, viens, tu ne veux pas remettre le salon à ta fille, et puis tu viens avec moi. Et je vais piloter tes opérations, et puis tu vas voir comment on gagne des millions. Et on va les investir dans le royaume de Dieu. J'ai dit, première année, j'ai dit, j'essaye de miser 1 million seul avec une secrétaire. Et puis on a soutenu beaucoup de monde, on a formé des jeunes entrepreneurs. Et puis c'était vraiment le départ. Et puis après, on m'a même proposé dans ce groupe de promotion d'entrer comme partenaire à 50% dans le capital action sans payer un centime. Ils m'ont dit, on te fait cadeau parce que tu manages ça tellement bien. Et puis des gros trucs, 30, 40, 50 millions. Et Dieu m'a dit, tu es un esclave royalement payé. J'ai dit, un esclave royalement payé. Oui, un esclave qui travaille pour le monde, pour des gens que j'enrichissais. Moi, je m'enrichissais aussi, mais eux encore plus. Et puis j'étais royalement payé. Et après, j'ai dit, mais Seigneur, mon cœur est sincère, ces millions. Et c'est pour ça que j'ai pris Lise avec moi au bureau pour avoir une sécurité, parce qu'elle, je sais qu'elle est plus sérieuse que moi. Donc, puis j'ai dit, tu dois me surveiller. Pas que j'achète déjà un avion dans 2 ans. Et puis là, il me dit, Kurt, je ne veux pas, textuellement, je ne veux pas tes millions, mais je souhaite ton cœur. J'ai dit, papa, ça veut dire quoi exactement? Il a dit, fermez la boutique. J'ai dit, oh, ouf. J'ai dit, elle marche tellement bien, de mieux en mieux. Il m'a dit, tu es libre? Oui, libre. Et j'ai dit, mais après, on négocie un peu, n'est-ce pas? J'étais pas un homme d'affaires pour rien. J'ai dit, écoute, papa, tu sais, avec ces contrats-là, j'ai c'est des grosses opérations, ça dure 14 à 24 mois. Est-ce que, voilà, je ne peux donc pas arrêter comme ça. Il m'a dit, écoute, ça, c'est, tu me laisses, ça, c'est mon problème, tu as qu'à dire oui ou non. J'ai dit, et puis si je te dis oui, papa, donc il y aura plus de gains dans ce domaine. Et puis j'ai quand même on a maintenant quand même un jeune conforme, un jeune père de famille qui était en faillite, on l'a sorti de la faillite, et maintenant on le forme, on l'a promis de le former pendant 3 ans de faire de lui un entrepreneur, ce qu'on a réussi. Il coûte quand même 6 500 francs par mois. Et là j'ai aussi promis, etc. J'ai dit, si je te donne les 9, toi, tu serais d'accord que le petit là, que je le garde pour rester dans l'immobilier. Il a dit, je suis d'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis avec un doigt dans l'immobilier et c'est avec ça que nous payons, que nous gagnons notre vie. Parce que j'ai aussi dit, parce que je l'ai aussi dit, mais vous savez, pour moi, c'est comme un papa. J'ai aussi dit, écoute, papa, encore un truc. Si je travaille avec toi, puis vous voyez, je ne peux plus faire du pognon. Moi, je ne veux jamais rouler avec une vieille bagnole où le poisson tient encore la carrosserie rouillée ensemble. Il m'a dit, non, non, fais pas de soucis. Mais il n'a aucun problème avec ça. J'ai dit, tu sais, j'aime bien les bagnoles un peu costauds comme dans notre grand Cherokee. Il a dit, mais aucun problème. On roule. Et puis on roule depuis 15 ans. Non, depuis 2000, ça fait 2006, depuis, oui, 11 ans. Et il ne nous a jamais laissé tomber. Mais il y a 10% de mon temps où il y a l'immobilier. Et en plus, j'ai dit, mais c'est 10%, papa, juste encore un truc. Je n'ai pas le temps de chercher des affaires. C'est franco domicile, que des bonnes affaires. Elle a dit, d'accord, Courte. Et puis j'ai fait jamais rien. On me dit, est-ce que tu serais d'accord de venir là en affaires, etc., et de manager ça? Et avec peu de temps, ça paye très, très bien. Et avec ça, nous pouvons avoir une, n'est-ce pas, Lise? Nous avons une vie, une belle vie, non? Oui, alors voilà. Mais oui, nous sommes des princes et des princesses, ou des princesses et des princes. Mais oui! Alors, vous voyez, je ne veux pas maintenant frimer devant vous, mais je veux vous encourager à oser lui dire que moi, je ne veux pas être une petite. Qu'est-ce qui ne marche pas? Non, non, non. Non, mais ça, c'est justement le. Ça, c'est justement le mensonge que le diable sert. Mais bien sûr, nous sommes tous des enfants de Dieu. Chacun a sa mesure. Bien sûr, Dieu n'a jamais promis de faire de tous un millionnaire. Mais vous avez le droit d'avoir assez pour tous vos besoins. C'est ça le message. C'est ça la quintessence. Ce n'est pas que vous pouvez dire maintenant j'aimerais une Ferrari dès demain. Non, ce n'est pas ça. Mais avoir assez pour tous vos besoins et même au-delà, afin de pouvoir encore investir dans de bonnes œuvres. C'est ça que Dieu promet. Et ça, je peux vous dire, on le voit. Où nous passons, nous voyons des changements. Pourquoi? Parce que là, on ne fait rien d'autre qu'apporter la parole de Dieu. Et surtout, on démente les mensonges. Parce que le diable dit, tu es rien, tu es nul, mais lui, il est bien, mais arrêtez. Moi, j'aurais dû mourir. Et avec les dettes que j'avais, les banques m'ont massacré. Ma femme s'est détournée de moi. Les enfants se sont détournés. Mais Dieu a tout rétabli. Alors, et quand vous comprenez que vous ne devez pas travailler à la sueur du front, mais demander à Dieu où est votre appel, vous ne travaillez plus pour gagner de quoi vivre, mais vous travaillez pour gagner de quoi donner. Vous voyez, c'est ça la différence. Ici, vous êtes en le pays du juste assez, et puis avec Dieu, vous êtes en le pays de l'abondance, où vous pouvez même donner plus loin. C'est ça? C'est ça les promesses de Dieu. Vous savez, je sais très bien, en France, encore plus qu'en Allemagne, et beaucoup, beaucoup plus qu'en Suisse, avec ce message, je ne trouve pas toujours l'accueil auprès de tout le monde. Et vous savez pourquoi? Il y a un puissant esprit de pauvreté. Cet esprit de pauvreté s'explique, et puis c'est pas une critique, c'est une constatation. Regardez ce que ces pays, les deux pays, citons la France et l'Allemagne. Première guerre mondiale. Ensuite, il y avait la grippe espagnole, qui a encore fait plus de morts que la guerre. Ensuite, il y avait les Allemands avec l'hyperinflation 1922-23. Ensuite, il y avait la crise économique depuis les années 29, pour les Allemands et pour les Français, et pour le monde entier. Après, il y avait la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire chaque fois des pères de famille manquaient, et c'était les pères de famille qui étaient eux qui travaillaient à la sueur du front pour leur famille, et puis comme ils manquaient, c'est l'esprit de pauvreté qui a pu entrer et puis qui a pu faire son œuvre de maléfiction. Vous faire dire, tu es pauvre, tu ne seras jamais rien, tu n'auras jamais rien. Et ça, c'est un mensonge, cette puissance, cet esprit de pauvreté. Bien évidemment, si Dieu a de bonnes promesses, l'ennemi ne reste pas les bras croisés. Il a un puissant serviteur au sein de son équipe qui s'appelle Mammon. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne compare pas Dieu au diable. Parce que quand j'ai lu ça pour la première fois, quand il dit « Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon », je me suis dit, mais attends, ben comment Mammon, c'est le big boss, c'est le diable. Pourquoi il parle de Mammon? Mais c'est Jésus himself qui l'a dit. Et il ne s'est pas trompé, parce que Mammon est le plus redoutable collaborateur du diable parce qu'il touche là où vous êtes sensible, à votre porte-monnaie et à la dépendance directement entre vous et Dieu. Ça veut dire, là où Dieu promet de pourvoir, le diable coupe cela et dit non. Ce n'est pas Dieu qui pourvoit, c'est ton employeur. Avec ton salaire à la fin du mois, c'est ton assurance invalidité, c'est ton assurance maladie, c'est ta rente et c'est cela. Et c'est encore un mensonge parce que c'est Dieu qui est celui qui veut et peut pourvoir à tous nos besoins. Et c'est ça que nous devons apprendre. Et puis ceux qui font ce séminaire, disons, cette formation biblique des finances, où je crois il y a déjà presque 30 ans, qui se sont inscrits, moi je vous encourage vraiment, vraiment de faire cette formation. Si vous ne l'avez pas encore fait, alors franchement, faites-le. Vous voyez ici ce que j'ai dit avec les versets en relation avec foi, salut et argent. Luc 6, 38 est un verset clé qui montre comment fonctionne le royaume de Dieu quand je dis acheter, vendre. Vous voyez? C'est donner et recevoir. Le la promesse donner-recevoir dans Luc 6, 38 est non seulement sous-estimée, mais aussi méconnue dans nos milieux. Et pourtant, c'est une promesse puissante. Pour moi, par exemple, la dîme, donner la dîme est pour moi en association avec la promesse dans Luc 6, 38, où il dit « donne et il te sera donné ». Quand les gens disent « la dîme, c'est l'ancienne loi », moi j'ai dit « mais attends, l'ancienne loi, c'est les... en relation avec la dîme, c'est les lois mosaïques, mais qui prévoyaient 23,33% de dîme. 10% et 10%, et puis une fois tous les 3 ans, ce qui fait 23,33%, on en parlera demain. Mais pour moi, moi j'appuie sur la première dîme qui était instaurée 430 années avant par Abraham et Melchisédek. Et en plus, pour moi, je m'appuie sur Luc 6, 38 qui dit « Si tu donnes, tu as le droit de recevoir. » Il faut donner beaucoup pour recevoir trop. C'est le proverbe court. Le partenariat souhaité par Dieu est que l'Église, vous voyez au milieu, avec à gauche le pasteur et à droite les hommes et femmes d'affaires, travaillent ensemble. Ça, c'est ce que Dieu prévoit. Mais l'ennemi, il a tout de suite compris que c'est très, très dangereux. Parce que l'Église a besoin d'argent, de finances. Et puis, les femmes et hommes d'affaires, ils ont les capacités de la création de richesses, eux. Alors, l'ennemi, il met une barrière. Et la barrière est que les hommes et femmes d'affaires se tournent vers d'autres associations parce qu'ils ne sont pas vraiment appréciés dans certaines églises. Malheureusement, parce que des fois les pasteurs ont peur qu'ils veulent reprendre l'église ou je ne sais pas quoi. Et de ce fait, l'ennemi arrive à couper le contact que les femmes et hommes d'affaires ont dans certaines églises plutôt la tendance à se retirer. Par exemple, une grande église en Allemagne où un qui a fait le séminaire avec nous, il est venu quatre séminaires, au même séminaire, il est venu. Chaque fois j'ai changé un peu dans le séminaire, parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Je me suis dit, oh le pauvre, il est de nouveau là. Si je raconte exactement la même chose, je vais varier un peu. Puis après, il est venu la troisième fois, j'ai dit, mais ça fait la troisième fois. Il a dit, oui, parce que chaque fois, tu changes. J'ai dit, oui, je change aussi pour moi, parce que si je raconte toujours la même chose, comment ça aussi à m'ennuyer, et puis en plus, aussi pour toi. Puis il a dit, mais je reviens de nouveau la prochaine fois. Puis il a dit, t'as encore amené des trucs. J'ai dit, oui, puis j'ai dit, c'est à l'infini, il y a 2350 versets. Et donc, celui-là, il a essayé de nous faire introduire dans une église qu'il connaît. Et puis j'étais juste à côté quand il est allé discuter avec, je crois que c'était un des pasteurs. Et puis il lui a dit, écoute, là, il y a Bullman... qui est sur, on est sur Bible TV, vous voyez, la télévision, elle est assez grande en Allemagne. Elle a, je crois, 400 000 personnes qui visionnent, et puis ils nous ont déjà, ces 40 jours, ils nous ont déjà montré, en tout cas 20 fois, en tout cas. Et il a dit, c'est eux sur Bible TV, puis ils étaient aussi dans différentes églises, aussi au Gospel Forum. Il a dit, Église et argent ne vont pas ensemble. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Église et argent ne vont pas ensemble. Et puis, je n'ai rien dit. Et après, j'ai dit à l'autre, et comment va leur église? Il a dit, au bord de la faillite. Ils ont fait un investissement pour des millions, mais ils ne sont pas loin de la faillite. Dommage. Vous voyez, donc finalement, ici la vision tourne au sein de l'Église au lieu d'avoir les femmes et hommes d'affaires avec eux. Et ça, c'est dommage, c'est très dangereux. Donc, il faut faire attention que nous soyons avec l'Église afin que les cinq sphères ici mentionnées puissent être touchées, dans l'individu, la famille, l'Église, économie politique, mais regardez, aujourd'hui, l'Église a une influence jusque-là et pas plus loin. Et ça, ce n'est pas bon, nous devrions aller plus loin. Nous devrions toucher aussi l'économie et la politique. Que ça se présente ainsi. Ça, c'est le but à atteindre. Vous avez vu, je vous ai dit que les deux systèmes, monde et royaume de Dieu, sont diamétralement opposés. Vous prenez le succès. Dans le monde, le diable est le dominateur. D'ailleurs, il pense qu'il est le dominateur. Il le dit dans Matthieu, c'est décrit dans Matthieu 4, 8 à 9. Il joue le dominateur et il est le dominateur pour des gens qui ne sont pas avec Dieu. Il utilise des hommes et des ressources matérielles et il promet le succès dans ce monde. Vous savez, le diable n'est rien d'autre qu'un copycat. Il copie Dieu. Comme il a aussi un Dieu, Dieu a un fils, Jésus, le diable, a aussi un fils. Je ne sais pas si vous le saviez, c'est le mensonge. Dans le royaume de Dieu, Dieu est propriétaire de tout, entre autres dans Psaume 24, verset 1 et encore ailleurs. Pas seulement le dominateur comme le diable le prétend, mais Dieu est propriétaire. Mais Dieu utilise aussi des hommes et des ressources matérielles. Et il donne aussi le succès dans ce monde. Mais en plus, ce que le diable ne peut pas donner, et ce qui est beaucoup plus important, c'est que Dieu donne aussi le succès dans le royaume éternel à venir. Nous aurons du travail, nous aurons des villes à gérer, une, 10, plus. Et comme l'éternité est quand même assez longue, je vous invite et encourage à vraiment vous préparer pour avoir un poste à responsabilité. Dans la vie éternelle, en tout cas, moi, je vise très haut. Très haut. Je veux être en route et puis avec visiter des étoiles, des trucs, et puis manager. Ah, moi, je me réjouis. En plus, comme j'aime bien les vins, j'aimerais être le caviste. Succès dans notre vie, dans le monde, argent, puissance, prestige, gloire personnelle et possession. Mais dans le royaume de Dieu, nous devons savoir que nous sommes des gérants. Même l'argent ne nous appartient pas. Nous sommes des gérants, nous sommes des serviteurs. Au lieu de vouloir la puissance, au lieu du prestige, nous sommes appelés à être humbles. Et au lieu de viser la gloire personnelle, glorifier Dieu. Et au lieu de posséder, donner. Celui qui donne s'enrichit et celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, dit la Bible. Propriétaire ou gérant dans le monde, c'est à toi, c'est à moi, je fais ce que je veux avec mes biens, finalement, je les gagne moi-même, mais dans la pensée du royaume de Dieu, il faut savoir que tout d'abord, tout appartient à Dieu et deuxièmement, nous ne sommes que des gérants pour le compte de l'Éternel, nous avons des comptes à rendre. Vie et responsabilité, voyez, je vous montre un peu les différences entre les deux systèmes. Dans le monde, la responsabilité et la vie, elles sont limitées ici à la terre. Tandis que dans le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle qui nous attend. Je répète encore une fois, pas que j'ai perdu la mémoire, mais c'est parce que c'est très important, c'est une des clés que le système du royaume de Dieu fonctionne avec donner et recevoir. Qui vient demain à cette... Ah, pas plus. Ben, vous allez manquer des choses. Demain, je vais encore entrer. Ben, vous pouvez toujours venir, hein. Il faut juste vous annoncer auprès de Luc. Vous n'allez pas le regretter. Vous savez, des fois, il faut investir peut-être un samedi puis dire ça c'est important et c'est important. Très important. Ouais, demain, je vais parler un peu de se donner recevoir, ce qui, mais on n'arrivera pas ce soir à tout dire. Il y a tellement de choses à dire. L'économie transcendante avec Dieu, c'est que 1 et 1 font 10, et puis dans le monde, 1 et 1 font 2. Pourquoi 1 et 1 font 10? Je fais allusion à Deutéronome 32, verset 30, où il est dit « Un chassera 1000 et deux 10 000 ». Ça veut dire, de toute façon, si tu es marié, tu es condamné à prier avec ton conjoint. Autrement, ta prière, elle ne vaut pas grand-chose. Souvent, elle ne vaut rien. Pourquoi? C'est parce que monsieur prie dans ce sens et madame dans ce sens et Dieu ne fait rien. C'est le témoignage que je donne dans les 40 jours et aussi dans notre livre que nous avons ici un peu de matériel là-dedans. Là, il y a 9 heures d'enseignement, 40 vidéos. Avec ce que je raconte ce soir et encore beaucoup plus. Et un excellent livre écrit par mon père spirituel, Earl Pitts. Chaque chrétien devrait lire ce livre à côté de la Bible. Bien richesse et argent. Après, il y a ce livre-là de l'histoire de mon épouse Lise. Et puis, quand vous tournez, hop, vous avez mon histoire. On est rationnel. Ça veut dire deux qui ne prient pas ensemble. C'est de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Deux qui prient, un dans ce sens-là, puis l'autre dans ce sens, c'est néfaste. Deux qui prient à peu près la même chose, mais chacun séparé, c'est 2 fois 1000, 2 000. Mais deux qui se mettent ensemble, qui discutent, qui se concertent, ce que nous faisons tous les matins, Lise et moi, nous discutons des sujets de prière. Je ne prie pas simplement comme un fou furieux, mais on dit, bien sûr, nous avons notre prière, journalier, qui, avec la protection sur les enfants, petits-enfants et nous, etc., pour les autorités, etc., mais il y a des thèmes, et puis on discute. Et puis après, on est concerté. Et donc là, on chassera 10 000. Si vous n'êtes pas marié, il n'y a aucun problème. Vous avez une amie ou un ami, et puis vous priez. Et la parole dit qu'en deux ou trois sont ensemble et se mettent d'accord, ils peuvent demander ce qu'ils veulent, et puis ça leur sera donné. Donc, il y a même, c'est même parlé au passé. C'est comme s'ils l'avaient déjà reçu. Et que nous pouvons dire merci. Je parlerai de ça demain aussi. Comment au sujet de la prière, pas demain, on aura plus de temps. Parce que beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas juste. Des fois, ils viennent vers nous, ils disent est-ce qu'on pourrait prier ensemble? Puis après, j'entends, ils disent oui, Seigneur Jésus, je te demande de faire avec mon employeur que j'ai dit stop. J'ai dit stop, on arrête. Parce que Jésus a maintenant le droit de se reposer à droite du Père. Il a fait un sacré boulot. Donc, laissons-le tranquille. Parce que tu veux quoi exactement? Oui, moi j'aimerais ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que Jésus dit? Comment il faut prier? C'est marqué dans la Bible. Il dit, si vous voulez quelque chose de mon papa, voilà comment vous devez prier. Papa, dans le précieux nom de Jésus, je te prie. Donc, il ne faut pas envoyer Jésus de faire ceci et cela, puis encore ça. Mais utiliser son nom pour demander au Père, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui ne prient pas juste. Et quand vous ne priez pas juste, il ne va pas vous punir ni condamner, mais simplement, l'efficacité ne sera pas la même. C'est de nouveau, ça fait partie du savoir, connaître la vérité, sortir de l'ignorance. Donc la prière est aussi très importante, savoir comment prier. Et d'ailleurs, j'ai un exemple dans le livre et puis aussi dans les 40 jours d'un couple boulanger qui aurait dû perdre leur maison, ils priaient complètement, d'une façon complètement fausse, et puis ils ont vécu un miracle sensationnel. Savez, moi, je me base toujours sur du vécu, sur des résultats, non pas sur des théories. Vous voyez ici, création de richesses, c'est ce que Dieu souhaite. Dans le monde, s'il y a un retour sur invest, comme on dit, de 15%, c'est les banques rêvent de ça. Ce serait excellent, mais dans le royaume de Dieu, s'il vous plaît. Vous voyez, Genèse 26, verset 12, là il dit, et Jacob avait une récolte au centuple, ça fait 10 000%. C'est ça? C'est ça notre Dieu. Propriété et prospérité, dans le monde propriétaire personnel, ça m'appartient. Prospérité personnelle, c'est pour moi, je fais ce que je veux. Succès personnel, moi je suis le roi. Et dans le royaume de Dieu, tout appartient à Dieu. Et la prospérité est pour la gloire de Dieu. Et le succès est aussi pour la gloire de Dieu. Au moment où vous donnez la gloire plus loin, Dieu va vous bénir en retour. Et tout ce que vous gardez, il va le déduire sur les bénédictions qu'il vous accordera. Parce que là, vous êtes déjà servi. Dans chaque séminaire, je dis, chaque fois, j'ai des gens qui disent, comme la dame tout à l'heure, oui, toi, tu es béni, ou toi, tu sais, etc. Je dis, attends. Je dis, je suis un homme comme chacun ici. Ce que j'ai reçu, ça vient de Dieu parce qu'il m'a appelé à faire ce job. J'ai dit, Seigneur, je le fais, mais dans ce cas, il faut me remplir avec la matière parce que moi, toujours quand j'étais dans le cheminement professionnel, je visais l'excellence. Je suis devenu dans le bâtiment un entrepreneur redouté entre Genève et Lausanne. Il tremblait la concurrence. Et j'ai dit, si je vais là-dedans, il faut que le diable tremble aussi. Et c'est pour sa gloire. C'est lui qui a donné. Et puis, quand les gens disent, ouais, mais toi, tu es fort, je dis, mais attends, je dis, Dieu a toujours choisi les plus faibles des plus petites familles pour devenir des cracks. Il a choisi le petit David qui était avec le bétail. Quand Samuel l'a fait venir, il a dit, il n'y a pas encore un. Je dis, ouais, mais c'est le petit là qui est avec le bétail. En plus, il pue. Tu veux vraiment qu'on le fasse venir? Il dit oui, et c'était lui qui était moi. Et on voit tout au long de l'histoire biblique que Dieu, Gédéon, le Gédéon qui se cachait pour battre le froment. Puis l'ange dit, veillant guerrier, il a dit, non, je ne suis pas veillant guerrier, je suis Gédéon. Mais c'est celui-ci qu'il a utilisé. Donc ça veut dire, quand quelqu'un me dit, oui, tu es fort, court, et moi je suis faible, je dis, dans ce cas, tu es le candidat idéal parce que la parole dit, c'est dans la faiblesse qu'est ma force. Donc aucune excuse. Non, il n'y a pas d'excuse. Dieu arrive avec tout le monde. Et beaucoup mieux avec les faibles qu'avec les forts, parce que les forts font beaucoup de résistance. Ça, c'est l'entreprise IT, là dont je suis dans le conseil d'administration. Après une année dans le conseil d'administration, et pas parce que j'étais dans le conseil d'administration, parce qu'ils ont appliqué les lois de Dieu, ils ont fait de l'ordre dans leur vie, et qu'on a eu une augmentation du bénéfice net de 2 280 %. Et c'est cette entreprise qui, en 2010, elle avait 20 employés, aujourd'hui 120. Et ce n'est pas fini. Nous visons pour l'année prochaine les 140, 150. Et maintenant, il y a même des chrétiens et un Allemand qui est venu à un séminaire que, quand j'étais l'autre jour dans la société, il est venu, Monsieur Bühlmann. Et puis, Herr Bühlmann, j'ai dit, allô? Il a dit, vous avez témoigné de ça, puis je me suis présenté et je travaille chez eux. Ah, mais j'ai dit, vous êtes en la foi, oui. Puis j'ai dit aux trois patrons qui étaient là avec moi, j'ai dit, regardez, là, on a encore un chrétien. C'est bon comme ça, on met un peu de sel dans cette boutique. Et ça, c'est le développement. Ici, là, ils ont fait en 2008 un séminaire avec nous. Vous voyez, les colonnes bleues, c'est le chiffre d'affaires, mais ce qui est plus important, c'est l'autre. qui est le bénéfice. Voyez ce qui s'est passé? Là, c'est les 2280% d'augmentation de bénéfice. Parce que chiffre d'affaires, c'est bien, mais c'est le bénéfice qui est intéressant. En tout cas, plus intéressant. Ils investissent beaucoup dans des jeunes, aussi en Amérique du Sud, avec des enfants, orphelinat et compagnie, dans les pays de l'Est, des centaines de milliers de francs par an. Ils ont choisi d'investir dans le plus haut investissement qui existe, c'est l'investissement dans l'homme, donc femme et homme. Ça, c'est le plus haut investissement que vous puissiez faire. Après, je parlerai de ça demain, après viennent les autres investissements que je vais vous expliquer demain. Et là, vous voyez les vraies valeurs. Plus haut investissement l'homme aux yeux de Dieu, plus haute valeur dans le monde, une valeur marchande. Ensuite, agriculture, c'est une vraie richesse qu'on appelle un bien. Aux yeux de Dieu, dans le monde, une charge. Les paysans ont de la peine en France, en Suisse et ailleurs. Ensuite, vient l'immobilier. Donc, maison, appartement, qui est une vraie richesse qu'on appelle dans le royaume de Dieu un bien. Et dans le monde, l'immobilier, on aime beaucoup plus la bourse, mais c'est virtuel, donc virtuel, c'est artificiel. La bourse va, un de ses prochains, tomber comme un château de cartes, et puis ça va être une très très mauvaise surprise pour beaucoup. Ensuite, vous avez à droite les entreprises du royaume, ça veut dire les entreprises gérées selon les principes bibliques, comme cette société IT. Et puis à gauche, vous avez les entreprises du monde qui vont connaître aussi des difficultés avec le tsunami économique qui est devant nous. Et après, vous avez l'argent et l'or. À droite, c'est la monnaie de Dieu. Ils appartiennent à l'Éternel, dit écrit dans Agé 2.8. Et puis à gauche, vous voyez que l'argent et l'or, on trouve qu'on n'a plus besoin en relation avec la protection de la monnaie du monde, comme l'euro, le dollar, le franc suisse, qui à l'époque avait une couverture, et aujourd'hui c'est fini. Je vais expliquer ça demain un peu plus en détail. Le temps. Dans le monde, on veut gagner du temps en se dépêchant, et dans le royaume de Dieu, en collaborant avec Dieu, on gagne du temps en prenant du temps avec lui. Ça, j'ai vécu une aventure intéressante avec Lise, parce que quand on s'est marié, je suis allé chez elle, j'ai laissé ma grande superbe villa à mon ex-femme, et elle m'a demandé quel est ton programme, et puis j'ai dit, mais si je viens chez toi, je m'adapte à ton programme, et puis elle me dit, je me lève à 6 heures. J'ai dit, oups, à 6 heures déjà. Mais j'ai dit, mais tu commences le salon de coiffure seulement à 8h15. Elle a dit, oui, mais je prends du temps avec l'Éternel, avec Dieu. J'ai dit, bon, alors d'accord. Et puis depuis, on l'a fait. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu plus tard, c'est plus 6 heures. Mais je me souviens, elle a dit, tu es un peu nerveux parce que je commençais à jouer un peu au tambour sur la table pendant qu'elle priait toujours. Et puis j'ai dit oui, parce qu'à 11h, je dois avoir un contrat très important pour un gros projet immobilier qui est prêt. Et puis voilà, puis il est déjà 8h. Elle a dit, mais on va prier pour ça. Ah, maintenant, elle prie encore. Elle a dit, Seigneur, tu vois que Kurt est un peu nerveux, il doit faire un contrat. Donc je te prie dans le précieux nom de Jésus de lui aider à ce que ce contrat soit prêt. À 11h. Amen. C'est simple. Je suis allé au bureau et je peux vous dire, j'ai pondu un contrat où le responsable, celui de le financier, dit, mais Kurt, où est-ce que tu prends ces idées? C'est incroyable. Ce contrat est absolument une bombe. Je dis, oui, l'Éternel est une bombe. En un temps record, il a joué le jeu, Dieu. Il a joué le jeu. Là, je mets un peu en comparaison ce que ça veut dire un comportement dans le monde, selon le monde, et puis un selon le règne de Dieu. Vous voyez que la malhonnêteté, elle amène à la séparation d'avec Dieu, et toujours avec les versets. Mais à droite, vous voyez, l'honnêteté a une intimité avec Dieu. Ensuite, de nouveau à gauche, la malhonnêteté, elle amène la malédiction sur la famille. Et à droite, l'honnêteté, bénédiction sur la famille. À gauche, malhonnêteté, la mort. Honnêteté à droite, la vie. Et tenez-vous bien à gauche, malhonnêteté, pauvreté. Et à droite, prospérité. C'est biblique, les amis. Je suis navré, c'est dans la Bible. En plus, j'aime. Je ne sais pas si vous aimez, mais en tout cas, moi, j'aime. C'est biblique. Le travail dans le monde est souvent considéré comme une malédiction. Ça veut dire que tu n'es pas dans le bon métier, tu n'es pas dans l'appel. Tu travailles comme un homme déchu, puis pourtant, si tu as accepté Jésus, tu es un homme libéré, un gérant réinstauré. Donc, tu es dans un appel qui est saint. Jean 5 explique que Dieu travaille encore aujourd'hui, il est toujours à l'œuvre, et nous sommes invités à travailler avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est uniquement le christianisme dispose d'une théologie de travail des grandes religions. Pas le bouddhisme, pas l'islam, mais le christianisme. L'importance du travail dans le monde, on travaille pour soi. Et dans le royaume de Dieu, dans la pensée du royaume de Dieu, nous sommes invités à travailler pour glorifier Dieu. Travailler pour qui et pourquoi? Vous voyez, dans le monde, on travaille pour gagner de l'argent. Et gagner de quoi? Vivre et avoir juste assez, le pays du juste assez. Et dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à servir et nous sommes appelés à travailler pour gagner de quoi donner. C'est de nouveau, celui qui donne, il recevra. Ici, c'est juste assez de quoi vivre. Et là, c'est être béni et gagner de quoi donner plus loin. Dans le monde, faire posséder être, et dans le royaume de Dieu, être, faire posséder, ou de l'intérieur vers l'extérieur. D'abord être, faire et ensuite posséder, et non pas faire posséder et être. Philosophie de vie dans le monde d'une génération, après moi le déluge. Dieu travaille sur trois générations, Abraham, Isaac, Jacob. Il souhaite que nous remettons ensuite à notre prochaine génération le bâton. Dans nos familles, Lisement, nous sommes les premiers dans la foi. Ma fille, j'ai un fils et une fille, ma fille, elle travaille avec moi. Elle a fait un master en économie à l'Université de Lausanne et puis elle a travaillé 5 ans chez Nestlé. Et puis finalement, maintenant, elle travaille avec moi. Et puis moi, je lui remets gentiment mes connaissances. Et elle a dû constater ce qu'elle a appris à l'université, qu'il vaut mieux oublier beaucoup de choses et garder ce qui peut servir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent servir. Mais le spirituel, on peut purement et simplement le mettre de côté. Tout ce qui est mécanique, comment faire un business plan, etc., etc., c'est très bien. Le monde a beaucoup de choses qui sont bien, que nous devons et pouvons profiter, mais dès que ça touche le spirituel, nous devons faire attention. Et c'est ça dans l'enseignement sur l'économie, donc un enseignement business. Il faut clairement expliquer aux gens comment faire. Et d'ailleurs, on a une semaine de nouveau à Stuttgart, dans l'église, à la grande église Gospel Forum, pour un séminaire business cette fois-ci, où il y a plusieurs personnes aussi entrepreneurs, futurs entrepreneurs qui se sont inscrits. Et je vais leur montrer comment on fait un pas après l'autre. J'ai dit tout à l'heure à Luc, moi des fois je vais à des conférences avec Business People, mais je vous dis honnêtement, j'étais plutôt pour écouter, mais j'ai dit Alice, mais qu'est-ce que les gens vont faire avec ça? Ils ont passé une belle soirée, mais il faut leur apporter un enseignement, point 1, point 2, point 3, point 4, très simplement expliquer comment un pas après l'autre. Mais pour ça, vous devez savoir de quoi vous parlez. Moi, j'ai monté une entreprise sans rien, en plus dans un métier qui n'était pas le mien. Je venais de l'économie, banque, publicité, marketing, et j'ai monté une entreprise de construction, puis je n'étais pas du tout entrepreneur. Mais j'ai quand même réussi entre 26 ans quand j'ai commencé, puis 40 ans, j'avais pratiquement 300 employés. Ça veut dire entrepreneur qui sent au bout des toits comment faire. Et ça, aujourd'hui, je l'utilise pour donner plus loin dans nos milieux, afin que les enfants de Dieu entrent dans ce quatrième vent pour devenir successful, comme on dit, pour avoir du succès. Quelle alliance? Dans le monde, on fait une alliance avec quiconque qui nous arrange. Mais dans le royaume de Dieu, il faut faire attention, parce que dans 2 Corinthiens, ce n'est pas dans 2 Chroniques, c'est faux, il faut que j'enlève ça, dans 2 Corinthiens, si s'il est écrit que qu'est-ce que le croyant avec le non-croyant et la lumière avec les ténèbres, se mettre sous un joug, vous savez, ça c'est assez brutal. Ça c'est assez brutal. Moi j'ai déjà eu... c'était aussi en France, quelqu'un qui n'était pas d'accord, il est sorti de la salle, il a dit, je n'accepte pas, je dis, je suis navré, mais c'est la Bible qui le dit. Et après j'ai compris, parce que cette femme, elle vivait avec quelqu'un qui n'était pas dans la foi, puis donc, mais j'ai dit, mais c'est dans le business, quand vous vous mettez ensemble avec quelqu'un, il faut vraiment bien réfléchir si vous voulez vous mettre, si vous êtes un enfant de Dieu, avec quelqu'un qui ne veut rien savoir de Dieu. Si c'est quelqu'un qui accepte, qui dit non, j'ai rien contre, et puis je suis même d'accord si on paye tu veux aussi payer la dîme, oui, parce qu'on va être pénible, ok. Mais si quelqu'un dit, écoute, c'est de la foutaise là avec ton Dieu, et arrête avec ça, attends, ce que je peux tout de suite vous dire, il vaut mieux ne pas se lancer dans une association. Quand vous avez l'ennemi dans la maison, j'ai un ami qui est architecte, il a un partenaire qui est tolérant, on s'entend bien, je travaille aussi avec eux, de temps à autre, et puis je n'ai pas un problème, il n'est pas dans la foi, mais il accepte. C'est la même chose quand vous cherchez un partenaire pour vous marier. Pour lui, c'était clair. Quand elle témoignera dimanche, quand son premier mari l'a quitté du jour au lendemain. Je n'ai jamais compris comment il pouvait quitter une si merveilleuse femme, mais bon. Et il est resté seul pendant. Donc, elle était sans mari pendant 12 ans, jusqu'à ce que nous nous soyons mariés sans aventure. Mais elle a prié. Elle a dit, Seigneur, moi, je ne vais pas courir derrière un mari, je te prie de me donner un homme de Dieu. Il a attendu 12 ans parce que vous savez des fois la qualité. Elle a un délai de livraison. On a déjà vécu des situations où une femme est venue, elle a dit, est-ce qu'on peut prier, j'aimerais aussi un mari, et puis Lise était venue, ah non, ah mais non, jamais, non, jamais, j'attends aussi longtemps, l'a quitté. Comment voulez-vous être béni? Mais dans ce cas, ne travaillez pas avec eux. Vous prenez l'exemple d'Abraham et Sarah, Je souhaite à personne de devoir attendre, être presque centenaire pour avoir un enfant. Mais quelle bénédiction! Et quelle malédiction qu'il n'avait pas sur combien une petite faute. Et aujourd'hui, on a des problèmes, hein? Parce que les fautes, on doit toujours les payer. Mais il est beaucoup plus simple de vraiment dire, vous savez, Dieu va rendre les années perdues quand on reste en obéissance. Et il était de même pour moi quand ma première femme m'a demandé le divorce, c'était terminé, j'ai tout quitté, j'ai laissé que les richesses et puis j'ai pris toutes les dettes avec moi. Mais aujourd'hui, non, quand tu contactes, mais quand je la vois, elle me fait mal au cœur. Et puis Alice aussi. De temps à autre, on est invité chez elle ou on l'invite chez nous. Je peux pas dire ça partout parce que j'aimerais pas qu'elle l'entende, mais elle nous fait mal au cœur. Elle est seule, puis elle a du pognon, elle a la grosse baraque sans dette et tout. Elle a sa chambre à coucher avec 70 mètres carrés pour elle toute seule. Le salon avec 95 mètres carrés aussi. Mais à quoi ça sert? 5 000 mètres carrés de terrain presque. Tandis que nous, on a l'éternel au milieu et on a beaucoup de plaisir. Mais à l'époque, j'ai aussi, quand j'étais seul, après le divorce, j'ai dit, Seigneur, moi je me marie. J'avais pas mal de propositions d'ailleurs, mais j'ai dit, mais j'ai dit, Seigneur, uniquement une femme de Dieu, où je peux vivre ce que je vis aujourd'hui. Contrat ou alliance, vous savez, l'alliance, c'est ça. C'est aussi l'alliance du mariage. À l'époque, on avait l'alliance du mariage qui a été sournoisement remplacée par le contrat de mariage qui peut être résilié maintenant dans certains pays ou villes, etc., déjà sur Internet. Divorce par Internet. Le problème est, une alliance ne peut pas être résiliée, elle peut uniquement être rompue, tandis qu'un contrat peut être résilié. Comprenez? Vous savez, c'est ce qui se passe dans le monde. C'est très sournois tout ça. Et nous devons juste le savoir. Le diable est raffiné. Mais vous savez, il a toujours les mêmes combines depuis 6 000 ans. Et puis les gens tombent toujours dans les pièges. La Suisse a fait une alliance avec Dieu en 1291. Et c'est marqué en latin, nous, dans le nom tout-puissant de Dieu, nous faisons une alliance éternelle avec le Dieu tout-puissant. Et encore aujourd'hui, c'est dans notre constitution. Il n'y a rien de ça dans la constitution européenne, je peux tout de suite vous dire. Et je crois que ça, Dieu a encore une main de bénédiction sur la Suisse. Quand je vois les compteurs d'endettement qui tournent, je vais vous montrer demain comment les compteurs tournent pour la France, pour l'Allemagne, pour les États-Unis. Et quand vous voyez pour la Suisse, c'est en arrière. C'est en arrière. La Suisse, elle désendette, désendette, désendette. Elle a désendetté de 132 milliards en 10 ans à 100, à 102 milliards. La France est à 2 000, passé 2 000 milliards. 2 150. Demain, je vous montrerai les chiffres. Voilà, c'est donc Dieu honore. Il honore quand il est honoré. Même, vous savez, il n'y a jamais eu un peuple parfait. Sur nos pièces de 5 francs, c'est marqué Dominus providebit. C'est du latin, ça veut dire Dieu pourvoit. Après, il y a les 3 étoiles pour Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis les 12 pour les apôtres. Quand j'ai parlé de l'arbre dans le paradis, c'est très important. Il correspond à notre champ d'action. Si vous mangez de cet arbre, vous êtes à gauche dans un terrain, un champ maudit. Parce que cet arbre, il est le know-how, le savoir-faire du monde et il est le juste assez selon le monde. Tandis que si vous êtes dans le champ d'action béni, selon Deutéronome 28, verset 1 à 14, vous recevez par révélation la sagesse divine et l'abondance. Ça veut dire que vous ayez toujours assez pour tous vos besoins et même au-delà pour pouvoir encore donner plus loin. Toujours dans une mesure où vous êtes capable de gérer. Parce que je dois quand même préciser que Dieu ne donne pas à chacun la même chose. Vous savez, dans le monde, on veut niveler vers le bas. Ah, ça, c'est le socialisme, par exemple. À tout le monde, la même chose, ça ne fonctionne jamais. Et puis ceux tout en haut, ils se servent de toute façon à outrance. C'est comme dans le communisme. Mais pour le peuple, on veut niveler, puis en haut, c'est l'équipe caviar champagne. Dieu donne selon nos capacités et il a donné à un gérant un talent, à l'autre deux et à l'autre cinq. Et d'ailleurs, celui avec un talent qu'il avait juste enterré et qui n'avait pas fait prospérer, il l'a enlevé et il l'a donné à qui? Celui qui avait cinq, donc qui en avait fait dix avec cinq. Mais celui qui avait deux, il avait aussi fait quatre. Alors ça veut dire, nous, peut-être nous gentils chrétiens, nous aurons peut-être dit, « Oh, je vais le donner à celui avec deux, qui est maintenant quatre, comme ça il peut encore progresser. » Mais Dieu est un stratège de tête. Il a dit, « Je donne à celui qui a fait de ses cinq, dix, parce qu'il va encore faire plus. Pourquoi? Pour être un instrument de bénédiction pour beaucoup d'autres. » Ça, c'est la stratégie de Dieu. Donc, ne vous attendez pas qu'il va donner à tous 10 talents ou 5 talents ou 3, peut-être il donne mais il donne à chacun quelque chose. C'est comme s'il donne à chacun, il était donné une mesure de foi. Romains 12, verset 8. Et le diable te dit, t'as pas de foi, tu peux dire t'es un menteur, il m'a été donné une mesure de foi. Et la foi, elle se travaille comment? En tout cas, pas par la prière, par l'application. Il faut appliquer la foi, c'est comme un muscle. La foi, faut comme un muscle. Mais maintenant, si tu travailles un muscle, et vous savez, des fois, on est dans des églises, ils mènent un enfant sur la scène qui est complètement handicapé, et ils disent, on va prier pour la guérison. Je me suis dit,
oh mon Dieu.
Ça, qu'est-ce que ça va être pour les parents? Ça ne va pas fonctionner parce que les gens n'y croient pas. Puis on prie, etc., puis rien ne se passe, et puis on le met de nouveau en bas. Et j'ai discuté avec un père que j'avais après dans mon groupe de prière, et j'ai dit, dis-moi Pierre, comment tu ressens ça? Il a dit, je commence à avoir le ras-le-bol et je veux qu'on ne prie plus. Parce que chaque fois, c'est une déception, et puis ma femme, elle fait après une crise. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a comme problème particulier ce garçon qui est carrément handicapé a quelque chose qui... Ben il a dit que, je sais plus, que le nez coule. Mais j'ai dit, mais dans ce cas, il faudrait prier pour que ça s'arrête, ça, au lieu que ça coule chaque fois. Parce que le problème est, si vous priez pour ce que vous ne pouvez pas croire, la parole dit, l'homme qui prie et qui ne croit pas est un homme insensé. Et il n'obtiendra rien et il est ballotté comme par des vagues. Alors à ce moment-là, il faut peut-être abaisser un peu la ficelle de la foi de 1,50 m et je demande à tout le monde de sauter par-dessus, puis je ne sais pas qui, en tout cas moi, je n'arriverai plus. Et puis peut-être plusieurs de vous non plus. Mais pourquoi on ne baisse pas à 40 cm pour que le plus faible arrive? Et avec ça, la foi va grandir. Et donc, c'est comme si vous voulez travailler vos muscles et puis vous achetez des haltères de 10 kilos. Et vous faites aujourd'hui 100 fois ça. Vous arrivez sans problème, même les dames. Mais demain, prenez demain un verre en main, vous n'arrivez pas. Pourquoi on ne commence pas avec 2 kilos? Et après on monte à 3, 4. Et c'est la même chose avec la foi. La foi grandit avec l'application. Donc, sortons du champ d'action maudit avec cet arbre de connaissance The know-how du monde. Attendons-nous à la sagesse divine que nous pouvons recevoir par révélation directement de Dieu pour entrer dans l'abondance qu'il a prévue pour nous selon nos capacités de gérer. Ça, c'est juste, c'est très simple, la création de richesses. Là, vous avez, voyez, tout ça représente le prix d'un article. Et puis, vous avez en bas le capital, donc, qui est nécessaire. Vous vous souvenez, il y a les finances, il y a les matières premières et il y a l'homme qui fait le travail. Ici, vous voyez, il y a le capital en bas, il y a les ressources énergie. Et ensuite, vous avez le travail qui est représenté ici par les salaires. Et puis, vous avez un profit. Et la création de richesse se passe là-dedans. Et puis on peut dire que la création de richesse, la terre fournit, le travail transforme et le capital rémunère. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est digne d'un prix Nobel. Et non pas ce qu'un prix Nobel, Krugman, a dit, que les dettes ne sont pas un problème parce qu'on doit l'argent à nous-mêmes. Non, mais... La balance, le juste prix est très important, ça veut dire que vous payez les salaires dans les délais. Je vais vous expliquer demain comment on paye les factures, quand une facture devient une dette. Parce que quand vous avez une facture, est-ce que c'est une dette? Alors, spirituellement parlant, elle n'est pas encore une dette, elle est un dû. Mais une dette est en liaison avec l'esprit de l'endettement. Bibliquement parlant, une dette est une malédiction. Et la facture est aussi longtemps que vous êtes dans le délai de paiement accordé, par exemple 30 jours, vous n'êtes pas sous l'esprit de l'endettement. Mais le jour après, quand vous n'avez pas payé, l'esprit de l'endettement a des droits. Ça veut dire qu'il faut, en tant que chrétien, veiller à payer dans les délais. Ça fait partie de la balance juste. Vous savez, l'élément horizontal est très important parce que si on commence à fausser, là, ça ne joue plus. Et cet élément s'appelle nefesh en hébreu, et puis ce que veut dire l'âme. Alors, on voit juste l'importance que Dieu donne à ça. La création de richesse qui est demandée en tant que femme et homme d'affaires, il y a trois ingrédients. On ne peut pas dépenser plus qu'on reçoit, c'est assez simple, mais beaucoup n'ont manifestement pas compris. Et sans travail, rien ne se fait, ça il y en a aussi qui n'ont pas compris. Et sans économie, le capital manque, on reste sur place. Ce n'est pas sans capital, l'économie ne marche pas. Non, c'est sans économie, le capital manque. Parce que l'idée de devoir s'endetter auprès d'une banque pour créer une entreprise, je peux tout de suite vous dire, dans le séminaire business, je dis, Dieu déteste des crédits qui sont pris pour créer une entreprise. Et ça a plusieurs raisons. Une est que vous mettez sous le joug de l'endettement. Une autre raison, c'est que vous pouvez faire plus vite à ce que Dieu a prévu que vous devriez le faire. Tout ça, c'est des points qu'il faut expliquer aux gens. Industrialisation, vous savez, avant la Deuxième Guerre, on avait encore une économie qui était basée sur être, ça veut dire avec le cœur, donc l'honnêteté, le sérieux, la fidélité. C'était beaucoup plus. Aujourd'hui, on est basé sur faire. Management by doing et non pas by being. Je ne sais pas si vous comprenez, on a un changement là de comportement, de paramètres qui est très très important. Que depuis cette richesse, cette prospérité que nous connaissons maintenant depuis plus de 70 ans, a complètement faussé le comportement. Et la Bible montre que chaque fois quand le peuple est devenu très prospère, ils ont commencé à faire des bêtises, et puis Dieu a dû intervenir et le retirer. Cette richesse, et ça c'est le prochain pas qui va se prochaine phase qui va arriver, et c'est David Wilkerson qui me l'a dit. Il a d'ailleurs écrit dans un livre Vision pour l'Amérique. La prospérité dans le monde, quand l'économie tourne rond, comme maintenant encore un peu plus ou moins, c'est facile de faire des affaires et d'être prospère. Mais quand ça change, et quand le tsunami économique qui est prédit, que plusieurs ont prédit, moi je l'ai aussi reçu en 2008 ou 2007, à ce moment-là, là vous verrez la différence entre ceux qui travaillent avec des principes bibliques et ceux qui travaillent avec le système selon le système du monde. Parce que dans le royaume de Dieu, les fluctuations économiques pour Dieu sont totalement insignifiants. Il s'en fiche royalement du contexte extérieur. Il peut faire tourner une entreprise qui lui appartient, même dans les pires circonstances. Aucun problème. Le grand mensonge qui nous a amenés dans la situation actuelle que nous vivons, c'est que le diable nous a vendu que nous pouvons devenir riches grâce à une économie virtuelle, ça veut dire où l'argent fait de l'argent. Alors maintenant, comme l'argent ne vaut rien, je vous expliquerai ça demain pourquoi. Donc je parle des euros, francs suisses, dollars, yuan et tout ça. Ça veut dire faire de rien quelque chose. Mais si vous regardez à droite, la Bible dit clairement que nous devons travailler pour créer de la vraie prospérité. Uniquement en travaillant, nous pouvons créer de la vraie prospérité. Et la création depuis rien que le diable nous a vendue comme étant possible, elle est uniquement possible à Dieu. C'est un privilège total et absolu qui appartient à Dieu. Vous voyez le mensonge? Est-ce que vous saisissez la portée de ce mensonge où le diable dit, vous pouvez faire avec de l'argent, donc avec rien, vous pouvez le faire. Et c'est un mensonge. On peut faire une bulle. Et quand elle éclate, il n'y a plus rien qui reste, mais les dettes, pour le même montant, sont là. Et c'est ce qui s'est passé avec ces bulles financières. Parce que la création depuis rien est un privilège total qui appartient à Dieu. Le monde travaille avec intérêt, spéculation, on pourrait encore dire addition, et le règne de Dieu avec multiplication. Et dans le système du monde, chaque fois que quelqu'un gagne, d'autres doivent payer. Vous faites du loto, vous allez au casino, etc. Vous avez des employés. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup qui vont jouer ou travailler pour enrichir un. Dans le royaume de Dieu, Dieu peut donner à tout le monde sans que ce soit au détriment d'un être humain, de quelqu'un d'autre. Parce qu'il a des fonds et des moyens illimités. Demain aussi, on parlera de ça. Bon, le piège de la dette, je vais expliquer ça demain, parce que je crois que j'ai assez chargé pour aujourd'hui. On revient à ça, et ça aussi, et ça aussi. Nous avons besoin de parce que c'est déjà 10h10, nous avons besoin de transformation. Et elle passe par l'information que vous avez reçue ce soir. Demain, je vous donne encore des informations avec un tout petit peu de formation, mais que vous devez encore ensuite continuer en petit groupe. C'est vachement sympa et intéressant pour aboutir à la transformation. Et puis, avec ça, vous allez être bénis. Merci de votre attention. Bon retour, réfléchissez si demain vous ne voulez pas être avec nous. Si oui, il faut peut-être le signaler à Luc. Hein.
C'est ça, on peut applaudir peut-être. Merci beaucoup, Kurt. Gloire à Dieu, c'est vrai. C'est pas la première fois que j'entends tous ces enseignements et je crois qu'à chaque fois on peut recevoir parce que Dieu a des choses fraîches pour nous chaque jour. Et je crois vraiment que c'est important de les mettre en pratique pour voir des vraies différences dans notre vie. Et je crois que Dieu a des plans merveilleux pour chacun d'entre nous. Donc, il l'a très, très bien dit. Demain, on continue. Pour celles et ceux qui se sont inscrites, donc là, c'est vrai que c'est une entrée qui est vérifiée. Donc, on tient à ce que les personnes soient inscrites. Pourquoi ? Parce qu'on a tout un matériel à donner à chacun participant pour pouvoir suivre et pour pouvoir se faire former ensemble par la suite, donc Kurt l'a dit, pour la transformation. Donc venez me voir si vous avez encore envie, si ça vous a parlé, si c'est sur votre cœur, pas de pression, Kurt en a assez mis. Mais pourquoi ? Parce que il pourrait vous parler pendant 3 jours non-stop de tous les témoignages des vies qui sont transformées par la parole de Dieu qu'ils annoncent. Donc c'est pour ça qu'il insiste et c'est pour ça que moi aussi, si vous avez la possibilité, je me tiendrai disponible pour prendre une inscription. On va ouvrir un petit temps de partage encore très court. Il est déjà tard, mais on n'aimerait pas vous renvoyer dans vos maisons sans avoir pris le temps de vous connaître ou simplement d'échanger quelques mots pour les personnes qu'on voit pour la première fois. Donc, soyez les bienvenus aussi au niveau de l'accueil. On va vous servir un gâteau, une petite collation, juste pour rester ensemble encore quelques minutes. Et puis ensuite de partir nous reposer pour continuer demain en pleine forme, parce qu'on a un super programme qui nous attend. Et puis pour celles et ceux qui ne pourront pas rester ni venir demain, on vous invite à venir dimanche matin. Je crois qu'il y a des super... Il y a un message qui va être annoncé, qui va être excellent aussi, des témoignages. J'ai entendu que Lise pourra apporter son témoignage. Il est extraordinaire. Donc venez, amenez vos amis, vos familles, parce que je pense que ça peut leur parler. Et sinon, je vous souhaite une excellente soirée et puis à très bientôt si jamais. Voilà, soyez bénis et puis merci. Merci d'être venus. Voilà, une dernière info, c'est vrai que je n'ai pas pensé à le préciser. J'ai envoyé un email pour ceux qui ont eu l'email. Demain matin, à 9h, on ouvrira les portes ici, à l'église, pour un déjeuner, un petit déjeuner. Donc venez participer, on vous offrira ce petit déjeuner avant de commencer la formation. Et ce sera un moment aussi pour connecter ensemble, pour se régaler et puis attaquer la journée avec les vitamines. Donc venez, soyez les bienvenus demain à 9h.